va se concentrer ce soir sur un seul de ces sujets. Dans le passage, c'est marqué Vaïkru bnei Aaron, Nadav v'Avihu. Aaron a quatre fils, mais deux d'entre eux, Nadav et Avihu, ont pris Ish Martato. Chacun a pris son encensoir, etc. Vayakrivu lifnei Hashem, ils ont approché devant Hashem, Esh Zara, un feu étranger. Étranger, ça veut dire qu'il n'a pas été prescrit. Bon, ça fait un peu double emploi avec Asher Lotsiva, Otam. C'est-à-dire, eux, ils n'avaient pas reçu l'ordre d'amener ce feu. Vatetse Esh milifnei Hashem. Et il y a un feu qui est descendu du ciel, qui est venu devant Hachem, en fait. Batochal Otam, qui a tout dévoré, en particulier eux aussi. Voyamutu lifnei Hachem. Ils sont morts devant Hachem. C'est-à-dire, on est en pleine réjouissance. On est dans le Yom HaShmini, c'est le huitième jour, c'est-à-dire le premier jour après les sept jours de Milouim. Les Milouim, c'est les jours d'inauguration du Mishkan. Durant ces sept jours, c'est Moshe Rabbeinu qui fonctionnait comme Kohen Gadol, en quelque sorte. Et il a en même temps intronisé Aaron et ses fils comme Kohanim. Et donc, il y a un passage de témoin le huitième jour. Ce n'est plus Moshe qui fait le job. C'est maintenant, désormais, Aaron et ses fils. Et il y avait, il fallait amener le Ktoret. Et le Ktoret, c'est un nuage odorant, en fait, un nuage d'odeur. Et alors, on produit ce nuage odorant avec une mixture d'épices, de 11 épices, disons. 11 parfums qu'on mélange dans des proportions qui sont bien connues. Et puis, en temps normal, à l'extérieur, on met ça dans l'encensoir, on y met le feu. Et quand le nuage commence à arriver, à ce moment-là, on l'amène ici à Hachem. Un peu comme, si vous voulez, comme quand on fait de la cuisine. Alors, il y a ce qui est fait en cuisine et puis il y a ce qu'on amène dans la salle à manger. Alors, on amène dans la salle à manger les choses quand elles sont finies, elles sont prêtes à être mangées. On va pas, on fait pas la cuisson dans la salle à manger. Et donc, ça avait été l'erreur de Nadab et Avihu. Eux, ils disaient, on va pas faire la cuisson, on ne va pas simplement apporter les parfums, puis on va attendre que le feu vienne. On va, nous, apporter directement de l'encens. Et c'est comme ça qu'on va procéder par la suite. Mais ici, c'est l'inauguration. Donc, ça a des règles particulières. J'ai expliqué plusieurs fois que à Kadosh Baruch Hu, visiblement, il voulait qu'on soit bien conscient que bien que ce soit les hommes qui apporte des corbanotes, mais en vérité, quelque part, on n'apporte rien d'autre que ce que Hachem nous a donné et qu'il nous a ordonné d'apporter dans ce domaine-là. Et par conséquent, Hachem voulait marquer les choses et ce jour-là, ce jour d'inauguration, c'est lui qui allait apporter le feu. Uniquement lui. Par la suite, il y aura toujours un feu qui est d'origine divine, si on veut, mais les hommes auront une mitzvah d'ajouter au feu. En tout cas, eux, ils ont voulu prendre l'initiative d'amener un feu qui n'avait pas été prescrit et ils en sont morts. La faute de Bnei Aaron, elle est dans ce qui est écrit dans le verset « Asher lo tiva otam » un feu qui ne leur avait pas été prescrit. c'est pas qu'ils ont fait un maasé qu'il fallait pas faire. Et bien sûr que ils ont fait ça le Shem Shamaim. Ils ont fait ça pour Hachem. Mais ils ont fait quelque chose qui n'avait pas été prescrit. Et les Chachamim disent, Rashi le ramène, ils disent quelque chose d'assez fort, ils disent, Rabbi Eliezer Omer, l'homme est tout bnei Aaron, elle a al sheohu alacha bifnei Moshe Rabban. Rabbi Eliezer dit, la raison ultime pour laquelle les fils d'Aaron, Nadav et Avihu, sont morts, c'est qu'ils ont été morés à l'acha, ils ont dit la halacha devant Moshe, leur maître. Et pas du tout, on ne parle pas de Ezra, etc. C'était morés à l'acha. D'après Rabbi Eliezer, donc l'acte qu'ils ont fait, c'est un acte qui aurait pu leur être prescrit. Donc c'est un acte cachère, si vous voulez, sauf qu'il n'a pas été prescrit. Moshe Rabbeinu, dans le futur, il va leur prescrire au nom d'Hachem. Mais là, ils ont pris l'initiative de le faire. Ils ont dit quelque chose qui est conforme à la halakha, mais avant que la halakha ait été donnée. Ils auraient dû demander d'abord à Moshe. Moshe, c'est leur maître. Il est leur oncle, mais il est leur maître. Ils auraient dû lui demander. De même, de façon géniale, si vous voulez. Ils ont inventé la halakha telle qu'elle va être donnée. Ils ont anticipé la halakha. Ils ont produit par eux-mêmes la halakha. Ils ont eu leur kavana, c'est le kavana. Ils ont trouvé le emet, en fait. Ils ont su comment, qu'est-ce qu'il faut faire avec ce ktoret là. Parce que c'était des géants. Nadav et Avihu étaient des géants. Ils sont arrivés à un niveau où d'eux-mêmes, ils étaient mechaven la halakha. Ça veut dire d'eux-mêmes, ils comprenaient ce qu'Hachem voulait qu'il fasse. C'est comme ça que le Nefesh HaChiyim explique les Avot. Les Avot qui n'ont pas reçu les mitzvot. Alors, on est en train d'expliquer les Avot. On dit que les Avot, ils ont accompli la Torah avant qu'elle ait été donnée. Comment ils ont pu, d'où ils savaient? Ils ont produit par eux-mêmes les mitzvot qu'Hachem allait donner. Donc ça veut dire que bon, les Avot, ils ont été capables de produire la Torah dans son entier. Et donc là, Nadav et Avihu, ils sont à un niveau tel qu'ils inventent la halakha telle qu'elle va être donnée. De même, c'est comme s'ils sont devenus un morceau de Torah, quoi. Ils disent de même ce que la Torah va dire par la suite. Et malgré ça, ils ont été punis. Alors, comment est-ce qu'on va le dire dans notre langage? On va le dire de la manière suivante. On va dire, les Avot, quand ils faisaient ça, ils étaient comme nous, dans notre langage, on appelle ça « eno metsuvé veosé ». C'est quelqu'un qui n'a pas reçu l'ordre de le faire et qui fait. Il fait ce qui doit être fait sans en avoir reçu l'ordre. Les Avot, ils avaient le droit de le faire parce que ils n'étaient pas dans un système où la Torah est donnée. Mais Nadav et Avihu, qui sont dans un système où la Torah est donnée, alors ils doivent agir en tant que Messouvé Véosé. Ils ont l'obligation d'agir comme Messouvé, mais pas comme Osé, bien qu'ils ne soient pas Messouvé. Et là, donc, la Torah nous a enseigné une super grande leçon. Donc, c'est quelque chose qui doit nous inspirer en permanence. Partout où nous nous tournons, en quelque sorte, il y a une obligation de faire les choses en tant que Metsouvé. Alors, ils doivent absolument agir en tant que Metsouvim, agir sur ordre en quelque sorte. Et on a effectivement le Chazal qui disent, c'est un Sfat Emet qui dit au nom de son grand-père, comme toujours, enfin comme très souvent, sur le pasouk Asher lo tziva otam, le Sfat Emet dit ki haikar kol koach maase haadam tzarich liyot mitzad tzivui Hashem ki kol sechel haadam tzarich liyot batel le koach ze. C'est-à-dire, la condition de Metsouvé, ça veut dire que on doit annuler notre Sechel à nous devant les ordres d'Hachem. Donc, même à supposer qu'on soit capable de produire par notre Sechel, par notre cœur, par notre Sechel, exactement la même chose que ce qu'Hachem va dire, c'est pas comme ça qu'on doit faire les choses. On doit faire les choses sur ordre. Donc c'est toujours en tant que Metsouvé qu'il s'agit d'agir, en tant que quelqu'un qui en a reçu l'ordre. Pour bien comprendre les choses, on va commencer par regarder la chose suivante. C'est écrit dans le Passouk, Zot Chukat HaPesach, ceci est la loi, le décret concernant Pesach. Qu'est-ce que le décret en question? C'est Kol Ben Nechar Lo Yochal Bo, tout étranger n'en mangera pas de ce Korban Pessah. Et Chazal disent dans le Midrash, Zehu She'amar HaKatuv Yehi Libi Tamim B'chukecha B'chule. Que mon cœur soit entier dans ta loi. C'est chukat ha-pesach, chukat para aduma, lama, sheshnehem domim ze la ze. Pourquoi est-ce qu'on met ensemble le chukat ha-pesach et chukat para aduma? Qu'est-ce que le korban pesach a à voir avec la para aduma? Ils se ressemblent. Pourquoi? Chez l'un, c'est marqué Zot Chukat HaPesach. Et dans l'autre, c'est marqué Zot Chukat HaTorah. On parle ici de la Parah. ואי אתה יודע איזו חוקה גדולה. Tu ne sais pas laquelle des deux choukot. Quelle est la loi la plus grande, la plus puissante, la plus élevée? Et le Midrash continue et il dit Machal l'shte matronot domot. Il y a deux femmes, deux romaines puissantes qui se ressemblent. Shayu malchot shteyn ka'achat venirot shavot. Elles marchaient ensemble, elles avaient l'air exactement aussi importantes l'une que l'autre. Migdola mizu, laquelle est plus grande que l'autre? Ota shechaverta melava ota ad beita veolechet acharea. Évidemment, c'est celle que sa compagne accompagne jusque chez elle, et ensuite elle repart chez elle-même. Elle marche derrière elle quasiment. Kach bePesach neemar bo chuka. Dans Pesach, dans le Korban Pesach, on a dit que c'était une chuka. Bepara neemar bo chuka. Et si tu me poses la question, Migdola Mizu, laquelle est plus grande que l'autre? Apara, c'est la para Aduma. Pourquoi? Shochle Pesach Tsrichimla. Parce que pour pouvoir manger le Korban Pesach, on a besoin de la para Aduma. Pourquoi? Parce que pour pouvoir manger le Korban Pesach, il faut être tahor. Et donc, quand on a touché un mort, on n'est pas tahor. Et donc, il faut se purifier. Mais pour se purifier, on a besoin de la procédure de la para aduma. C'est marqué dans le pasouk. Velakru la tamé me afar srefat achatat. Marqué dans le pasouk, on prendra pour celui qui est tamé, on prendra de la cendre de la para aduma qu'on a brûlée. Nous, quand on regarde la chose, on a plutôt l'impression que la para aduma est moins importante que le Korban Pesach. Puisque celui qui est tamé, il ne peut pas approcher le Korban Pesach. Et donc, il doit d'abord se purifier pour être kasher, pour manger le Korban Pesach, pour approcher et manger le Korban Pesach. Et si, mais s'il n'était pas chayav de manger le Korban Pesach, il aurait le droit de rester dans son état d'impureté. Si ce n'est pas parce que je dois faire des choses qui nécessitent que je sois pur, donc c'est fonctionnel de se purifier. Donc a priori, ce n'est pas ça qui est l'essentiel. Donc, la purification n'est qu'un hercher mitzvah, c'est-à-dire quelque chose qui nous qualifie pour être capable de faire la mitzvah. Alors, pourquoi là, on nous dit ici que la mitzvah de para aduma est plus importante? Chachamim viennent et disent que c'est Icar par rapport à Pessah. Et en plus, qu'est-ce que ça a à voir avec le pasouk que de Tehilim qui est cité là, Yélibi Tamim Bechukecha? Ça n'a rien à voir. Le écart du verset ici, en fait, il doit être un peu expliqué. Le fait que la mitzvah de la para soit appelée chouka, Chazal l'explique de la manière suivante. Le fiché à Satan de Omota Olam, monim, c'est-à-dire il nous empêche, il se moque de nous, ou essaie de nous empêcher de le faire. Monim et Israël, l'Omar, ma mitzvah azot, ils essayent de se moquer, de nous empêcher, enfin de nous inciter à ne pas faire la mitzvah en question, en disant qu'est-ce que c'est quoi, c'est, ça n'a pas de sens, ce que vous faites avec la paradouma. Le fichach katav ba chouka. Pour cette raison, Hachem a, enfin, la Torah a écrit chouka, c'est un chok, c'est-à-dire gzeraim ilfanai. C'est un décret divin. Ah, ça veut dire, tu comprends rien? Oui, mais c'est un décret divin. Le charushut le harer acharya. Décret divin, tu n'as pas le droit de contester, de porter un jugement. Ça, c'est Rashi sur la Paradouma. Paradouma, elle fait cette chose contradictoire. Elle est metaeret meim ou metama teorim. La paradouma, c'est une procédure de purification de quelqu'un qui est impur. Mais quand le Kohen qui est en service et qui va asperger les cendres de la paradouma mélangée à l'eau sur la personne qui veut se purifier, ce Kohen-là, il va devenir tamé en faisant ce qu'il fait. Donc, paradouma, c'est metaheret, ça purifie ceux qui sont tamés, et ça impurifie, ça rend tamé ceux qui étaient théorim. Bon, ça veut dire que ça n'entre pas dans le dat. C'est pas compréhensible, c'est pas rationnel, c'est incompréhensible. Le dat a enoshit. L'intelligence humaine ne comprend pas cette démarche. Jusqu'au point où celui qu'on appelle Racham Mikol Adam, c'est-à-dire Shlomo HaMelech, a dit Amarti Erkoma, Virchoka Mimeni. Je croyais que je maîtrisais complètement la Chokma. Je vois que, en regardant par Adouma où je comprends rien du tout, je comprends que j'ai rien compris à la Chokma. Et c'est pour ça que ça s'appelle Chok. Chok, ça veut dire décret, Xerat Meler, un décret divin, un décret royal, sur lequel on n'a pas recherché à comprendre, etc. C'est un décret divin. C'est fait pour être obéi, c'est tout. D'une certaine manière, en disant, on peut le dire autrement, on peut dire une chouka, c'est une mitzvah dont la raison, le ta'am, n'est pas dévoilée. L'homme doit l'accomplir. Pourquoi? En s'écrasant devant la volonté divine. C'est-à-dire se plier aux dates de la Torah, au discernement, à l'intelligence de la Torah. Mais la mitzvah ou les mitzvot de Pessah, ça c'est les mitzvot qui ont des raisons, ça a une raison bien claire dans le Passouk, puisque dans la Haggadah, on va dire Pessah shayu avoteinu ochlim bizman shebet hamikdash hayakayam al shumma. Autant le Beit HaMikdash existait, nos ancêtres mangeaient le Korban Pessah, mais pourquoi mangeaient-ils le Korban Pessah? Al-Shum, chez Pessah HaKadosh Baruch Hu, al-Bate Avotenu Bemitzrayim. parce que HaKadosh Baruch Hu a passé par-dessus les maisons de nos ancêtres en Égypte. C'est marqué dans le Passouk. Zevach Pesach Hu Lachem, c'est un korban, c'est un sacrifice qui fait de Pesach, il est pour Hachem. Asher Pesach Al Batei Bnei Israël Bemitzrayim, Hachem qui a passé par-dessus les maisons des Bnei Israël en Égypte. Benokfo et Mitzrayim, lorsqu'il a frappé l'Égypte, Ved Bateinu Itzil, alors que nos maisons, il les a sauvées. Ok. Mais si la définition de Chouka, c'est une mitzvah dont le tam n'est pas dévoilé, alors pourquoi est-ce que le commandement de Pessah s'appelle Chouka? Puisque le tam est dévoilé. Et si on touche à chose qu'on a déjà vue un peu, y compris dans le shiur que j'ai donné sur Pessah. On a l'habitude de considérer les mitzvot de la Torah. On regarde certaines d'entre elles, elles n'ont pas de tam machia, c'est-à-dire il n'y a pas de raison qui emporte notre adhésion en quelque sorte. C'est-à-dire que le dat humain, le discernement humain, l'intelligence humaine, n'est pas vraiment complètement satisfait. On n'est pas vraiment en phase. On a des obligations, mais malgré tout, c'est bon, c'est ok. On a entendu ça au Sinaï, donc on va le faire. C'est des mitzvot qui s'appellent Shmaayot. C'est les mitzvot qu'on a entendues. Il y a d'autres mitzvot qui sont appelées mitzvot sichliot, des mitzvot du sechel. C'est-à-dire des mitzvot dont on pourrait dire que si on ne les avait pas donnés comme mitzvot, on les aurait inventés tout seul. Donc, Razal, il s'exprime en disant, si elles n'avaient pas été écrites, elles auraient mérité de l'être. Bien, alors, bien que souvent, c'est les mitzvot il y a des mitzvot qui ne sont pas obligatoirement naturels pour l'homme, ce n'est pas des comportements naturels. Et puis il y a des mitzvot qui sont naturels. Shfichut Damim, Gneva, Gezel, Onaha, etc. Toutes ces mitzvot-là sont naturelles au sens où. Bon, ça ne nous pose pas de problème, en principe, de respecter ces mitzvot-là. Dans le Chizkuni, le Ramban en parle aussi, hein, ils disent « Yesh kama mitzvot shechayavim bnei adam le shomran mikoach svarat tadat » Il y a quelques mitzvot que l'homme doit faire parce que c'est une obligation qui vient de son dat, mon intelligence, mon discernement, ma réflexion, me pousse à faire ces mitzvot. et que je les aurais faites, ces mitzvot, même si elles n'avaient pas été données. Bon. On n'a pas, d'une certaine manière, on a l'impression qu'on n'a pas besoin de nous dire tu ne tueras pas. On peut encore discuter de ça, hein, parce que, comme je vous ai dit, le tu ne tueras pas qui vient d'après le Sechel, je ne suis pas tellement sûr, je suis même sûr du contraire, mais que ce soit vraiment le tu ne tueras pas qui est écrit dans la Torah. Parce que le tu ne tueras pas qui est écrit dans la Torah, il fait partie des Aseret HaDibrot, et on a vu déjà quelques fois que les Aseret HaDibrot, ça forme un tout. Et dire que ça forme un tout, ça veut dire tu ne peux pas comprendre la mitzvah de tu ne tueras pas sans la mettre dans un contexte qui est Shabbat, qui est Kibbud Av V'Em, etc., qui est pas d'idolâtrie, etc. Et c'est un peu ces choses-là, en général, c'est dit sur les mitzvot des Bnei Noach. Toutes les mitzvot qui sont tluim besvara ou uvanata de liba, la compréhension du cœur, voilà, c'est la sensibilité normale, c'est l'intelligence, etc. Kvarakol mitraivim bahem. Tout le monde est astreint à ces mitzvot. Minayom asher bara Elokim Adam al haaretz. Depuis que Hashem a créé un homme sur terre, ces mitzvot s'imposent. C'est l'agdama de Rabbeinu Nissim. On se fait un aftach. C'est un Rishon qui explique ça comme ça. Bon, alors, bon. On peut s'étonner, donc. Alors, pourquoi est-ce qu'elles ont été écrites? Pourquoi avoir écrit ces mitzvot, puisque on aurait fait de toute manière? Et donc, on est bien obligé de dire que de l'avoir écrit, ça crée l'obligation supplémentaire qui vient donc élargir ou préciser ou modifier un peu ce qu'on aurait su dire et faire par nous-mêmes. Alors, il n'y a pas de doute que si les mitzvot qu'on aurait pu deviner par nous-mêmes sont écrites dans la Torah, ça vient nous enseigner quelque chose de nouveau. Ça veut dire qu'il faut les accepter, il faut les accomplir, pas seulement parce que ça nous paraît nécessaire, mais essentiellement parce que c'est Hachem qui nous l'a ordonné. On retrouve ce dont on a parlé au Shiur sur Pessah, dans une mitzvah, la mitzvah elle-même, elle doit être faite uniquement parce qu'on en a reçu l'ordre. Uniquement parce qu'on en a reçu l'ordre, parce que c'est comme ça que je manifeste, je vous répète ce qu'on avait dit au Shiur, c'est comme ça que je manifeste ma qualité de Eved Hashem. Je suis Eved d'Hashem, et un Eved, c'est quelqu'un qui fait, il agit sur ordre. Après, ça c'est Naasé. Après, il y a un Nishma, et seulement après. Pas du tout dans la motivation. Après, quand tu fais cette mitzvah, quand tu réfléchis à ce que tu fais, tu verras qu'il y a du sens et un sens, et ça t'invite à une recherche de sens qui, elle, devient infinie. Parce que quand on a un premier sens, on doit se demander, mais est-ce qu'on peut aller chercher un peu plus loin, plus profondément ? Et donc, il y a une recherche infinie de sens. OK ? Donc, ce sont deux choses. Donc, l'important, c'est que les mitzvot, y compris ces mitzvot qu'on aurait faites par nous-mêmes, on doit les faire non pas parce qu'elles nous paraissent être des mitzvot logiques, ce que vous voulez. Non, on le fait parce que ça nous a été ordonné par Hachem. Et là, on connaît le Gemara dans Makot qui dit que Rabbi Hananiah ben Akashia Omer Ratsa Akadosh Baruch Hu Zakot et Israël. Lefichach Hirba Lahen Torah Umitzvot. Akadosh Baruch Hu a voulu être mezaké le clan Israël. Il a voulu créer des mérites pour le clan Israël. Il a voulu que les Bnei Israël aient des bons points en quelque sorte, des mérites. C'est la raison pour laquelle il a multiplié, il a donné beaucoup de mitzvot. Mais si on regarde exactement comment c'est écrit, c'est écrit Irba Torah ou mitzvot. Qu'est-ce que ça veut dire Irba? On a l'impression qu'il en a mis plus que nécessaire. Pour qu'on ait plus de mérite, alors il y a des mitzvot qui n'étaient pas nécessaires de mettre, mais bon, les amis, comme ça, on accomplit, en accomplissant cette volonté, on crée un mérite. Est-ce que ça veut dire qu'il y a dans la Torah des mitzvot qui n'étaient pas nécessaires? Quelle figure dans la Torah? Et d'un autre côté, est-ce que la Torah n'a été donnée que pour multiplier nos mérites? C'est ça? C'est ça la fonction de la Torah? Chaque mitzvah, elle a des mérites spécifiques. On acquiert des mérites spécifiques en pratiquant chaque mitzvah. Et donc, c'est quoi cette expression « ribouille »,« arbé » ? Allez, vous m'en mettez très bien un peu plus. Quoi. Ça veut dire quoi ? Incompréhensible. Alors, les acharonim, ils se sont arrêtés sur ce « irba ». Par exemple, le Maguid de Doubno, il explique que Irba, qui est utilisé ici dans cette Gemara de Makot, ça fait référence à ces mitzvot sichliot. Ça fait référence à ces mitzvot du Sechel, dont on a dit que c'est les mitzvot qui, si elles n'avaient pas été données, elles auraient mérité de l'être. C'est-à-dire qu'on les fait de nous-mêmes, ces mitzvot. On les aurait fait de nous-mêmes. Dans le Magid Min Doubno, il dit, ben c'est ça, ce sont ces mitzvot-là qui sont visés par le Irba. Beaucoup, il a multiplié les mitzvot. Donc, si la Torah n'était que qu'un ensemble de chukim, de règles, qui ont pour but de régler le fonctionnement de la société, alors il n'aurait pas été nécessaire de les énumérer. On comprend bien, ça va de soi-même. Mais en vérité, si ces mitzvot-là, elles font aussi partie de la Torah, ça veut dire que il faut les entendre autrement que ce qu'on entend par la réflexion humaine. C'est un peu, moi je le dis sous la forme de, c'est une partie du Aseret HaDibrot. Mais si effectivement elle n'avait pas été écrite, il n'y aurait pas eu de tzivouille. Alors on les aurait faites comme des lois qui assurent le bon fonctionnement de la société. Et maintenant, elles sont devenues un ordre divin, une obligation énoncée par le Créateur. Et donc, il nous incombe de les pratiquer comme tels. Et donc, on va recevoir un salaire sur le fait d'avoir bien pratiqué ces mitzvot, à condition que on les ait pratiquer en tant que tzivoui. Mais pas parce que, en d'autres termes, pas, on ne fait pas la mitzvah parce que le tam nous paraît intéressant, même dans les mitzvot qui ne sont pas sikhliot. Mais on a les autres mitzvot aussi, on pourrait se dire, bah, tiens, c'est un tam intéressant, ça m'intéresse de me comporter de cette manière-là, je comprends que, tiens, ça ouvre des horizons, etc. C'est pas ça le but. C'est d'abord, naasé, tu fais le geste, tu fais la mitzvah parce que tu es ordonné de faire la mitzvah. Ça marque que tu es Eved Hashem. Donc on a ici une remarque très profonde, très très profonde, qui nous oblige à regarder les choses d'une autre manière, un derech avoda, une façon de servir Hachem. On connaît la question, enfin le Rambam dans les Shmoné Prakim, il est choker, mi gadol mimi. Donc qui est plus grand? Amishtokek, ala vera bekovech et itzro, qui est plus grand? Celui qui a un désir de faire une avera et qui se maîtrise son yetzera, et il ne fait pas la avera, mais c'est important peut-être qu'il y ait un désir de fauter qui soit réprimé, qu'il lutte contre cela, ou bien que le mieux, c'est de quelqu'un qui a pas du tout de désir de fauter. Il ne faute pas parce qu'il a tué le désir ou il a pas ce désir. Est-ce que, donc ça, c'est une question que Rambam pose dans les Shmoné Prakim. Et dans ce sujet-là, en fait, on peut pencher d'un côté ou de l'autre. D'un côté, ce machma dans Chazal, clairement, que le processus de maîtriser le rat et se soumettre au Créateur, donc c'est-à-dire que bon, alors ça passe évidemment par des envies, par des désirs d'Avera. Parce que si j'ai pas de désir d'Avera, alors je fais pas de travail pour me soumettre au Créateur. Donc je m'écrase pas, je ne sers pas Hachem d'une certaine manière. Dans le Torah de Kohanim, dans Parshat Kedoshim, Rabbi Elazar ben Azariah Omer, Minayin she lo yomar adam i afshi lechol besar chazir. Rabbi Elazar ben Azariah dit, d'où est-ce qu'on sait que l'homme ne doit pas dire, j'ai pas envie d'une côte de porc. Ou i afshi lavo à la herva. Ou j'ai pas de désir d'avoir un rapport avec une herva. Valioma afshi ve afshi. C'est-à-dire, bien sûr que j'en ai envie. Bien sûr. Mais qu'est-ce que je peux faire? Avi shebashamayim gazar al alaikach. Mon Père Céleste me l'a interdit. Nimtsa piresh mina avera. Celui qui fait ça, il se sépare de la avera. Ou mekabel alav ol malchut shamayim. Et il prend donc ainsi sur lui ce qu'on appelle Ol Malchut Shamayim, c'est-à-dire le joug du ciel. C'est-à-dire, il se plie, il s'écrase devant Hachem. Ça, c'est Rabbi Elazar ben Azariah. Le Afshi Bipsar Chazir, c'est en quelque sorte un passage obligé pour pouvoir dire que Avriche Bachamaim Gazar Alai, pour pouvoir dire oui, mais mon Père Céleste me l'a interdit. Et donc d'accepter Ol Malchut Shamaim. Et d'un autre côté, Shlomo HaMelech a dit des choses très dures contre ces désirs qui viendraient de là, et il dit Nefesh Racha Ivtara. Le Nefesh d'un Racha désire le mal. Simcha la tzadik asot mishpat ou michyata le poale avin. Donc, le rachat, il désire le mal. Le tzadik, il se réjouit de pratiquer le mishpat. Mashmat, de façon claire, que le ratson pour le mal, pour lui-même déjà, d'avoir un ratson pour mal faire, ça fait en sorte que celui qui a ce ratson-là, il est appelé un rachat. Donc on a, en quelque sorte, des arguments pour l'un et pour l'autre côté. Là-dessus, je vous ai dit, c'est une hakira du Rambam. Alors le Rambam dit, Yesh Evdel Machia. Il y a une différence fondamentale entre les mitzvot Shmaayot et les Sifliot. Entre les mitzvot qu'on a entendues et celles qui sont Sifliot, celles qu'on aurait, comme on a dit, qu'on aurait faites de toute manière. C'est que quand un désir s'éveille du côté du mal pour les mitzvot shmaayot, par exemple, bassar chazir, bassar bechalav, shatnez, sont des mitzvot où le sechel, ou le cœur ne nous y obligerait pas. C'est-à-dire, l'âme qu'il désire, en fait, qui désire ces choses-là, bon, ben, elle est pas, elle se dégrade pas par ce désir-là. Parce que s'il n'y avait, c'était pas interdit par la Torah, il n'y aurait pas de mal. C'est sur ces mitzvot-là que Chazal vise quand il dit, c'est Rabbi Elazar ben Azariah dit comme ça, Lo yomar adam yafshi lechol bsar chazir, yafshi lavon ha'erva, adraba. Kochol shetavato rabba, au contraire, plus le désir est grand, plus l'élévation qu'on a à maîtriser le Yetzirah dans ce domaine-là, la Kabbalat Ol Malchut Shamaim dans ce domaine-là est plus élevée. Par contre, dans les mitzvot, Sichliot, dit Rambam, si quelqu'un désire tuer son prochain, si quelqu'un désire voler, ça, c'est quelque chose qui est mauvais en soi. Ah, c'est vraiment, le désir lui-même est mauvais. Rambam, il appelle ça Adam Megouné. C'est un homme détestable, en fait. Parce qu'une âme élevée, elle n'aurait pas de tel désir. Donc, c'est une âme très vile. C'est là-dessus que le pasouk dit « Nefesh racha yivtara ». Le nefesh du racha désire le mal. Quelque part, ce désir lui-même, il manifeste vers l'extérieur, il témoigne quasiment d'une pourriture intérieure. Et du coup, maintenant, il faut qu'on re-réfléchisse, en fait, comment est-ce que ces choses-là s'arrangent avec ce qu'on a vu plus haut. Les mitzvot, sichliot, ont été écrites dans la Torah uniquement pour que on les applique parce qu'Hachem nous l'a ordonné et pas parce que on a un penchant pour les appliquer. Pas parce que mon sechel me dit qu'il faut appliquer, mon sechel il me dit qu'il faut pas tuer son voisin et pas voler, etc. Or, on vient de dire, on vient d'expliquer, en réalité, ces mitzvot, maintenant qu'elles sont écrites dans la Torah, il faut pas du tout les faire, il faut pas du tout ne pas tuer le voisin, parce que, en réfléchissant, je comprends très bien que je ne vais pas tuer mon voisin, il n'y a pas lieu de le tuer, etc., c'est pas bien, pas du tout. Faut le faire. Je fais cela parce qu'Hachem me l'a ordonné. C'est presque un peu difficile de mettre tout ça bout à bout, alors, parce que, on a dit que si je le fais seulement parce qu'Hachem me l'a ordonné, ça veut dire que le fait d'y penser, c'est pas une mauvaise chose. On vient de dire que sur ces mitzvot-là, d'y penser, c'est déjà une preuve que c'est une âme de mauvaise qualité qui peut penser une chose pareille. Donc on a un problème. Alors comment on résout cette apparente contradiction, en fait? Alors on dit ça comme ça. La différence que le Rambam fait entre les mitzvot sikhliot et les mitzvot shmaiot, ça vient pas nous dire quelque chose quant à la construction de la volonté et des désirs, etc. Mais ça vient nous dire quelque chose dans le maase akiyum de la mitzvah, parce que le Créateur nous l'a ordonné. Là-dessus, il n'y a pas de différence entre les sikhliot et les shmaiot. Elles aussi, ça doit se faire aussi en tant que gzardin et gzrat melech. Parce que c'est vrai qu'il faut dire comme ça, le commencement de tout, le shoresh, la racine, la avoda, de la avoda, du service d'Hachem, c'est le fait de s'écraser complètement devant Hachem. C'est-à-dire de travailler sur nous au point de bien comprendre que on est là pour faire la volonté de Hachem. C'est absolu. J'ai pas besoin pour ça de réflexion supplémentaire, etc. C'est la condition juive, disons. Mais pour cela, Akadosh Baruch Hu a implanté en nous, en quelque sorte, une bina, capacité de déduction, du sechel, d'intelligence. Et donc ça va former notre capacité à réagir de façon humaine, en quelque sorte, c'est-à-dire de naturellement pencher à faire ces mitzvot sikhliot et de détester naturellement le mal. Le mal, le tuer, etc. Et pourquoi est-ce que Hachem nous a fabriqués comme ça, en quelque sorte? C'est pour ça, c'est pour que nous puissions utiliser toute notre sensibilité, tout le côté pureté qu'il y a en nous, et on le développe jusqu'à ce que notre volonté humaine, donc, s'identifie de façon absolue avec le côté moral, si on peut parler, ou moral, qu'il y a dans le fondement de la mythe de cette mitzvah. C'est-à-dire que on trouve l'ordre d'Hachem nous concernant, et Hachem veut qu'on amplifie, qu'on multiplie en nous cette force d'âme qui est qui est en phase, complètement en phase avec la volonté divine. De cette manière-là, c'est comme ça que les mitzvot, qui sont shmayot, c'est-à-dire que les shmayot, qui sont les mitzvot sur lesquels on n'a pas développé en nous un sentiment de dégoût pour le contraire de ces mitzvot-là. Et la raison, la raison en est, c'est que on n'a pas besoin de construire en nous ce chemin de l'accomplissement de ces mitzvot, parce que c'est tout ce qui nous est demandé là, c'est de nous écraser devant Hachem. Donc j'ai pas besoin d'entrer dans le détail en quelque sorte. Mais les deux, que ce soit les shmayot et les sifriot, elles sont toutes les deux à faire par shibud, par esclavage par rapport à Hachem. Donc ici, on entend de nouveau Adam me souvait, si on peut parler comme ça, l'homme, il est ordonné de développer en lui, développer son âme, développer de la distance, peut-être de la répulsion même. Sur la transgression des mitzvot sifriot. Mais quand il s'agit de les mettre en œuvre, ces mitzvot, alors on lui demande de mettre, d'utiliser sa sensibilité en quelque sorte. Dans ces mitzvot-là, il y a une argasha, il y a une identification éventuellement avec elle. Là, il faut que ces actions l'action qui est l'accomplissement de ces mitzvot-là, il faut que ça soit fait parce que c'est la volonté de la chaîne. Et exprimer là-dedans, toujours de nouveau, cette notion de s'écraser devant Hachem. C'est-à-dire que même dans les sikhliot, il faut arriver à les faire avec un esprit de, comme on a dit, c'est une mitzvah, c'est avdout. Toutes les mitzvot, là, il n'y a pas lieu ici de faire une distinction entre les sikhliot et les shmaayot par rapport à toutes ces mitzvot, elles doivent être une expression de notre condition de avadim d'Hachem. Toujours, toujours faire les choses parce que Hachem les a prescrites. Il y a un chazal, que vous connaissez dans le Masechet Avot, qui dit, Oya Omer, Ase Retsono Kirtsoncha, et Batel Retsono Cha, Ipne Retsono. Et on avait vu ça au Shio, je ne sais pas si j'ai vu avec ça, j'ai vu ça avec vous ou pas, on a l'impression que c'est deux fois la même chose. Aseretsono. C'est-à-dire, fais en sorte que la volonté divine devienne ta volonté, ou bien annule ta volonté devant la volonté divine. Ça peut s'entendre comme deux fois la même chose. Mais en vérité, c'est pas exactement la même chose. Parce que, d'une certaine manière, si je fais en sorte que ma volonté, si je fais en sorte que la volonté divine devienne ma volonté, ça veut dire que maintenant, en moi, il y a plus qu'une seule volonté, la volonté divine. Et après, on pourrait dire ça. Mais en vérité, c'est peut-être pas ça seulement. On veut seulement transformer la volonté divine et de l'en faire en faire ma volonté. Mais je pourrais aussi avoir, parallèlement à cette volonté, comme si j'ai deux volontés. Je veux faire deux choses en même temps. Mais une chose, c'est qui est la volonté divine qui est devenue la mienne. Mais à côté, j'ai aussi ma volonté à moi par ailleurs. Un peu comme un Eved. Vous avez un esclave. L'esclave, il peut avoir, peut-être qu'il a aussi, je ne sais pas, disons, il a aussi son petit jardin. Son maître lui a concédé un jardin. Donc lui aussi veut développer son jardin. Seulement, la priorité, c'est que d'abord, tu t'occupes du jardin du maître. Bon, d'abord, c'est ça, tu es évêque, donc il n'y a que quand tu auras fait tout ce que tu dois faire pour le jardin du maître et que tu n'es pas mobilisé, requis pour faire autre chose, que tu vas pouvoir t'occuper de ton jardin. Mais donc, il peut coïncider en nous la volonté divine, qui est devenue mienne, mais aussi ma volonté de m'occuper de mon jardin. Maintenant, s'il vient, mais par contre, dans la deuxième partie, il dit « Batel Retsonkha ». Non, ça ne suffit pas. Je veux qu'il n'existe qu'un seul Ratson en toi. Que le Ratson d'Hachem, qui est devenu tien maintenant, il prenne toute la place. Batel Ratsonra par rapport à Ratsono. Annule ton Ratson devant le sien. C'est-à-dire, tu ne t'occupes pas de ton jardin. Tu ne t'occupes que du jardin du maître. C'est ça que dit la deuxième partie. Dans la première partie, on te dit d'abord, fabrique un Ratson chez toi qui est le Ratson d'Hachem. C'est-à-dire, il faut acclimater le Ratson d'Hachem pour qu'il apparaisse comme ton Ratson. C'est-à-dire que voilà, c'est, oui, je veux ce qu'Hachem veut. Mais je veux aussi ce que je veux. Effectivement, avec une priorité pour ce qu'Hachem veut, etc. Mais je veux aussi faire ce que je veux. Si j'ai du temps. Et là, la deuxième partie dit, non, il n'y a pas question. Batel, devant le Ratson Hachem, Batel Ratsonra. Annule complètement ton Ratson. C'est-à-dire, ce qu'il demande ici, le Tana, cette Mishnah, il dit, il ne doit y avoir en l'homme qu'un seul Ratson, qu'une seule volonté, c'est le Ratson d'Hachem, qui est devenu ma volonté. Il n'y a pas de place pour une autre volonté. Là, c'est toujours ce dont on a déjà parlé quelques fois, que par rapport à Hachem, c'est toujours absolument, c'est toujours uniquement Hachem. Par exemple, dans la Yira, on peut dire, ben, voilà, j'ai de la Yira, j'ai de la crainte révérentielle, etc. pour Hachem. Mais je peux aussi avoir de la crainte pour quelque chose d'autre, non. Dès lors que tu as aussi de la crainte pour autre chose, alors ça ne s'appelle pas Yirat Hachem. C'est ça être Eved. Être Eved d'Hachem. Vous voyez, les Chachamim à l'époque de Mordechai et Esther, ils ont dit on ne peut pas instaurer de dire Hallel à Pourim. Pourquoi on ne peut pas? On ne peut pas parce que les premiers mots du Hallel, c'est Hallou Avdei Hachem. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes Avdei Hachem. Pourquoi? Parce qu'on est sujet d'Achashverosh. Donc c'est pourquoi pas? Pourquoi on ne pourrait pas être sujet d'Achashverosh et être Eved d'Hachem? Non. Si tu comprends ce que veut dire être Eved d'Hachem, tu comprends que d'être sujet vraiment d'Achashverosh, c'est ça le problème du Galout. Dans le Galout, d'une certaine manière, Hachem nous met dans une situation où il y a un risque de ne pas avoir la crainte d'Hachem. Parce que je crains le pouvoir, je crains l'autorité du roi dans le pays duquel je suis. Et même si on me dit que Dina de Malchuta, Dina, oui, Dina. Mais pas le craindre, non. Pas la ira. Si tu le crains, alors il y a. Si tu crains vraiment, alors tu ne crains pas vraiment Hachem. Et ça, c'est difficile à comprendre, mais c'est fondamental. Voilà. Je suis désolé, on n'a pas fini du tout ce que je voulais voir. Bon, peut-être on continuera la prochaine fois.